Les colloques du Collège de France.
Merci à tous d'être là de nouveau pour la suite de notre traversée passionnante de l'œuvre de Michel Butor. Donc, j'accueille à présent Marion Coste, dont nous avons déjà parlé ce matin, puisqu'elle est la co-directrice de cet ouvrage, le troisième cahier Butor, Michel Butor en musique. Et donc je signale simplement que les choses vont tellement vite qu'elle n'est plus à l'université de Cergy-Pontoise mais à la Sorbonne, maître de conférence à la Sorbonne. Et donc aujourd'hui elle va nous entretenir sur Butor l'Indien, ce que Michel Butor aurait beaucoup aimé à mon avis comme intitulé, Butor l'Indien pour une lecture francophone. Elle avait ajouté un point d'interrogation qui a sauté sur le logiciel. Merci Marion.
Merci Mireille. Je vais commencer par remercier Carlo Ossola pour l'invitation. Je suis vraiment très contente d'être ici et d'entendre tant de belles choses depuis ce matin. La critique a déjà mis au jour la façon dont l'écriture de Michel Butor se nourrit à toutes les sources, y compris à des sources extra-occidentales, au premier rang desquelles on compte l'Égypte, l'expérience égyptienne de Michel Butor ayant été un moment majeur de sa formation d'écrivain. C'est à partir de l'ensemble de ses travaux qui situe Butor aux quatre vents, je cite ici un ouvrage, et souligne son écriture nomade, qui étudie l'Égypte de Michel Butor au miroir, par exemple, de l'ethnographie nervalienne, qui porte le regard sur les déménagements de son écriture, que voudrait se situer ce travail en proposant de lire l'œuvre à partir d'un autre paradigme théorique, celui des littératures francophones. D'ordinaire, par ces termes de littérature francophone, on désigne les littératures écrites en français hors de la France, avec une ambiguïté certaine en ce qui concerne les Antilles, mais plutôt voilà, pour désigner des territoires extra-hexagonaux. Pourtant, l'idée d'appliquer ces paradigmes critiques à l'œuvre de Michel Butor n'est pas si incongrue, puisque les littératures francophones elles-mêmes ne se sont jamais satisfaites d'aucune définition statique, et tirent une partie de leur dynamisme d'une remise en question essentielle de leurs frontières. Les travaux de Maxime Delfiol interrogent par exemple le bien fondé de la dénomination de poésie francophone et soulignent la nécessité d'établir des critères littéraires d'identification d'un corpus francophone, critères littéraires qui permettraient seuls de sortir d'une suspicion d'assignation raciale faite aux auteurs et autrices dites francophones. Maxime Delfiol propose alors deux critères. Premier critère, la présence d'une culture autre que la culture française. Il précise alors que culture est à prendre ici dans son sens anthropologique et désigne l'ensemble des comportements et productions humains et humaines caractéristiques d'un groupe et porteurs de signification pour ce groupe. Donc c'est culture dans un sens assez large qui peut comprendre par exemple l'équitation, la publicité, tout un tas de pratiques jugées signifiantes. Le second critère est celui de l'imaginaire hétérolingue. C'est ici le mot « imaginaire » qui permet l'ouverture du corpus. Il ne s'agit pas de restreindre les littératures francophones aux littératures comprenant des mots autres que français, mais plutôt d'inclure l'ensemble des littératures qui s'écrivent en présence d'autres langues, dans la conscience de ces autres langues. Je voudrais ici interroger la pertinence d'une lecture francophone de l'œuvre de Michel Butor. J'entends pertinence de deux manières. Il s'agira d'abord de montrer comment les deux critères identifiés par Maxime Delfiol peuvent s'appliquer à l'écriture de Michel Butor, puis de s'interroger sur la façon dont une lecture francophone permet de déplacer la lecture pour enrichir notre compréhension de l'œuvre de Michel Butor. Dans l'espoir de faire tenir ma communication dans le temps imparti, je travaillerai exclusivement sur mobile. La présence d'une culture autre que française dans mobile ne fait aucun doute. Mobile se présente comme un récit de voyage écrit dans le prolongement d'un road trip états-unien. Je voudrais ici montrer comment le fait de considérer ce texte, non pas comme un récit de voyage, comme je viens de le dire, mais comme un écrit francophone, permet de déplacer les enjeux de la présence de la culture américaine. La différence, à mon sens, est que dans le récit de voyage, le narrateur se présente comme extérieur à la culture qu'il décrit. Au contraire, dans les écrits francophones, le narrateur est habité par toutes les cultures en présence et subit ou jouit de leur confrontation. Je montrerai comment Michel Butor s'approprie la culture américaine blanche pour la remettre en question de l'intérieur. Michel Butor s'implique progressivement dans cette culture américaine. Au début du texte, il adopte un point de vue extérieur à la culture américaine dont il condamne avec ironie certains aspects. Ainsi, il écrit, les Indiens, je cite donc, « Les Indiens des États-Unis, au nombre d'environ 500 000, vivent pour la plupart dans des réserves dispersées sur tout le territoire, où ils ont été parqués peu à peu lors de l'occupation progressive du pays par l'envahisseur blanc. Il ne serait pas gentil de les comparer à des camps de concentration. Ce serait même un peu injuste. Certaines de ces réserves sont touristiques. » C'est à la page 121 des œuvres complètes. Une telle mention laisse transparaître une subjectivité critique forte dans la dénomination « envahisseur blanc » et bien sûr dans la non-comparaison ironique avec les camps de concentration. De même, à la page 128, lorsqu'il relève « for white only », puis explique « dans les États du Sud, une partie... » C'est de nouveau une citation. « Dans les États du Sud, une partie des autocars ou des tramways est interdite aux gens de couleur. » On ressent un regard extérieur et on peut supposer une forme de condamnation. Cette optique historique et cette condamnation des oppressions raciales américaines traversent tout le texte de Mobile. Pourtant, Michel Butor n'en reste pas à cette condamnation extérieure. Comme le dit Lyotard, il se fait « pêcheur avec le pêcheur » et adopte peu à peu la culture américaine blanche afin de comprendre de l'intérieur le fonctionnement d'une société pratiquant l'apartheid et les réserves. Je vais d'abord étudier la manière dont il fait sienne l'obsession de la couleur. Je vais d'abord montrer comment ça passe de façon assez détournée par un usage du langage publicitaire dans Mobile. Il est intéressant aussi de sentir la manière dont Butor fait sienne une description de la culture qui sera celle des Cultural Studies, beaucoup plus tard. La culture américaine qu'il nous propose, c'est surtout celle des grandes autoroutes, des noms de villes, des produits de la consommation de masse, tels qu'ils sont mis en scène dans le discours publicitaire. Si de mon point de vue, la dénonciation de l'apartheid et de la situation des Indiens reste le point focal du récit, Michel Butor se défait peu à peu d'une condamnation extérieure pour explorer les racines de la culture américaine à partir des éléments du quotidien que sont les toponymes et les discours publicitaires. Le discours publicitaire se fait peu à peu obsédant dans Mobile, prenant possession de la langue même du narrateur. Je vais vous proposer ici une étude de la façon dont sont décrites les voitures. Donc Mobile, comme beaucoup de textes comme l'ensemble des textes mobiles de Michel Butor, fonctionne avec des séries, et l'une de ces séries, c'est des noms de voitures qui vont s'étoffer petit à petit. Je vais le montrer. Alors, donc je vais vous donner toute une série de citations courtes qui se retrouvent comme ça fréquemment dans le texte. D'abord, pages 123 et 126, on a seulement une marque sur la route, une Buick. Bon. Ensuite, une Ford couverte de poussière. Deux pages plus loin, une Oldsmobile grise. Puis la mention des couleurs se complexifie à la page 136 où on lit « Sur la route, une Plymouth ?» Je suis très nulle en voiture, excusez-moi. Une Plymouth bleue. Et puis j'ai pas pensé que j'allais dire ce texte à l'oral. Quand je l'ai écrit, je me suis dit qu'il n'y aurait aucun problème. Une Plymouth bleue conduite par un blanc. Page 142, une Chevrolet rouge. Page 144, sur la route, une Cadillac orange conduite par un blanc très rose. Page 148, sur la route, une Buick orange défoncée conduite par un très gros vieux blanc très rose. Page 150, une Buick jaune, on réduit. 151, une Cadillac verte rutilante conduite par un très gros vieux blanc très rose à chemise noire. Page 158, sur la route, une Dodge blanche conduite par un vieux blanc très maigre en chemise indigo à pois bleu clair. Et puis une Plymouth blanche renversée. Ensuite, page 164, une énorme Plymouth grise conduite par une vieille blanche très jaune en robe cassis à pois cerise avec un chapeau à fleurs chocolat. À la même page, page 166, une énorme Lincoln jaune rutilante conduite par une grosse vieille blanche à robe mangue avec un chapeau à fleurs pistache. Si j'ai isolé ainsi l'une des séries qui composent ce texte, c'est pour montrer qu'il y a un double phénomène d'inflation. D'abord, il y a de plus en plus de mentions de couleurs, des voitures et de leurs conducteurs ou conductrices. Une seconde inflation, plus subtile, se constate dans la dernière occurrence et serait confirmée si j'avais poursuivi mon relevé de la série. Les noms de couleurs sont d'abord basiques, blanc, rouge, vert, puis assez étonnants, cassis, cerise, chocolat, mangue, pistache. La raison de cette évolution de la langue même du narrateur se trouve à la page 178, où l'on comprend que cette obsession de la couleur et ce vocabulaire extrêmement précis des teintes vient de la lecture des prospectus publicitaires. Je vais vous donner un extrait qui se trouve tel quel dans Mobile et qui se présente comme une publicité pour un revêtement de carreaux de faïence en plastique pour votre salle de bain. « 5 nouvelles teintes perlées », c'est la citation, hein. « 5 nouvelles teintes perlées », nuages roses, turquoise, glace au citron, nacre, abricot, glace rose, vert brume, sable du désert, flamme, bleu de dread, gris bois flotté, bourgogne, charbon de bois, vert bruyère, caramel, zeste de citron, turquoise, et puis là, ça passe à la ligne, il n'y a pas de tiré, blanc ou noir uni. » Il faudra revenir sur la mention dernière du blanc ou noir uni, où le double sens racial joue à plein. Uni comme l'union ou comme la couleur pure. Pour l'instant, contentons-nous de ce constat. Butor, loin de conserver un regard distancié, s'approprie la langue et l'obsession culturelle de la couleur qu'il identifie dans la culture américaine blanche. À travers cette liste, on peut aussi constater qu'il s'approprie un autre trait de la culture américaine blanche telle qu'il l'aperçoit, celle de la consommation de masse. Les voitures sont désignées par leur marque, c'est bien mon problème, et la série est soumise à un phénomène d'inflation qui traduit le débordement d'une matérialité envahissante. Cet envahissement matériel est sensible dans l'utilisation des listes, forme par laquelle Butor reprend la langue des prospectus publicitaires, comme pour les revêtements de faïence de salle de bain plus haut, enfin tout à l'heure, et qui revient à plusieurs occasions, par exemple à la page 165, pour décrire une clarinette qu'on peut acheter par correspondance. Voyons comment maintenant, de façon beaucoup plus directe et explicite, l'obsession raciale est mise en scène dans Mobile. Une autre voix, une autre série, au moins une, en italique, habite le texte. Elle est, à mon sens, la voix du refoulé. Et force est de constater qu'elle est obsédée par les personnes africaines-américaines dans un mélange de fascination érotisante et de dégoût haineux. C'est d'abord, à la page 128, la mention de « noir », point. Juste ce mot, « noir », point, sur une ligne. Décliné par son nom féminin, noire, noir avec un E, point, une page plus loin, et puis encore une page plus loin, au pluriel masculin, noir avec un S et pas de E, et puis au pluriel féminin, noir, ES. C'est ensuite des mentions plus construites, on est trois pages plus loin, il est noir, puis très noir, suivi de n'est-ce pas, une statue d'ébène. Cette série a elle aussi son pendant féminin, elle est à peine noire. À la voir, on ne dirait pas qu'elle est noire, mais elle est noire. Vient ensuite une description fragmentée d'un corps noir, et cette fragmentation produit un effet érotique. Une épaule, un bras, un poignet noir ruisselant, et un peu plus loin, la peau noire grumeleuse de son cou, et encore un peu plus loin, le téton noir, mais d'un autre noir, sur le sein noir. C'est à la page 150. Dans cette dernière mention, la répétition de l'adjectif noir signifie l'obsession raciale qui balance entre fascination et répulsion. Peu à peu, les autres séries contenant des noms de couleurs et mentionnant parmi d'autres le noir et le blanc, par exemple les descriptions de plantes, d'oiseaux, les noms d'états ou de lieux dits, les voitures ou les encarts publicitaires, se chargent d'une connotation raciste, plus ou moins activée par le contexte. Le long exemple des revêtements de faïence que je vous ai lu tout à l'heure et la mention finale du blanc et noir uni est un bon exemple de ce phénomène où le double sens du mot uni fait ici sens. Ainsi, lire en Michel Butor un auteur francophone nous permet de saisir la façon spécifique dont il analyse de l'intérieur la culture américaine, faisant sienne ses obsessions et ses fantasmes. Bon, on va maintenant voir s'il y a un horizon hétérolingue, un imaginaire hétérolingue dans l'œuvre de Michel Butor, en tout cas dans Mobile. Donc, parler d'hétérolinguisme chez Michel Butor est difficile, la présence de mots en langue étrangère est rare. Dans Mobile, elle se résume à la mention « for white only » qui revient de façon lancinante pour souligner l'apartheid. Cette présence de la langue américaine fait exception dans le texte. Cette exceptionnalité de la mention en langue étrangère nous invite à imaginer ici une sorte de choc ou même de court-circuit de la conscience du narrateur. Ce « for white only » fonctionne comme un objet culturel inassimilable dont l'étrangeté est irréductible. La présence de la langue étrangère fonctionne donc à rebours de ce qu'on peut observer chez de nombreux auteurs francophones. Elle n'est pas une manière de marquer l'imaginaire hétérolingue de l'auteur, mais plutôt ici au contraire de montrer que la culture de l'autre ne peut pas s'intégrer, pas en tout cas dans cette dimension-là, dans la langue de l'énonciateur. Je lis dans ce geste, qu'on retrouve ailleurs dans l'œuvre de Michel Butor, une forme d'humilité, la conscience que la culture de l'autre se dérobe, qu'il ne peut pas la saisir dans toute sa complexité, d'un seul regard ou d'un seul mot. S'approprier la langue américaine, ici, ne passe pas par l'usage de l'anglais, mais emprunte plutôt des chemins détournés. Je me concentrerai ici sur deux manières dont Michel Butor apprivoise l'imaginaire de la langue américaine. La première manière, c'est les toponymes. Ils sont partout et en majuscules, donc on peut difficilement les rater dans mobile. Deux éléments me permettent de penser qu'ils servent de passerelle entre la culture américaine blanche et la culture européenne. Il faut d'abord remarquer qu'ils permettent souvent de faire un lien avec la culture européenne par le jeu des reprises de toponymes, puisque de nombreuses villes américaines sont des noms en fait de villes européennes transposées. Ainsi, le Oxford américain est mentionné, page 153. L'autre phénomène récurrent dans le texte est celui de la traduction des toponymes. À la page 153 est mentionnée l'île du cèdre, avec une majuscule à cèdre, qui nous invite, la majuscule nous invite à lire le nom d'un lieu dit. Page 158, on croise la rivière sans retour, avec majuscule à sang et à retour. Et les monts du cœur, majuscule à cœur, signal et du grand trou, avec partout des majuscules. Outre les majuscules, dans ce dernier cas, c'est la présence du tiret, grand trou avec un tiret, qui identifie le toponyme. Ces calques linguistiques portant sur les toponymes créent un effet paradoxal d'étrangeté et de familiarité. Là où la conservation du nom anglais aurait suscité une forme d'exotisme, ces traductions littérales permettent de faire la moitié seulement, du chemin vers la langue de l'autre, vers sa façon de définir sa géographie. En outre, la focalisation sur les toponymes permet de faire sentir un rapport colonial à l'espace. Je m'autorise ce mot parce que Michel Butor suggère à plusieurs reprises un rapport d'appropriation de l'espace par les Américains blancs. À la page 159, on lit « De Colombie-Britannique, d'Alberta ou de Saskatchewan, des Indiens pieds noirs ». La mention de la colonie britannique révèle un rapport fantasmé à l'espace, une pratique du toponyme qui consiste à surimposer à un espace indien, qui est rappelé avec le toponyme Saskatchewan, qui est une province du Canada, un autre espace européen. J'ai aussi gardé la mention des Indiens pieds noirs, parce que ici, la traduction de Blackfoot, qui crée une sorte de collusion culturelle des pieds noirs en France, qui désigne les Français installés en Algérie durant la colonisation. Ce parcours des toponymes permet de révéler les limites d'une lecture francophone de Michel Butor. Il y a bien dans sa pratique l'ambition d'accompagner la culture de l'autre, de la suivre dans sa façon de nommer l'espace, mais il reste toujours la conscience d'une distance, qui est bien souvent dans mobile une distance critique, mais qui est aussi la marque d'une humilité et un refus de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'appropriation culturelle. Cette façon d'accompagner la culture de l'autre, de l'approcher sans se l'approprier, mais sans la tenir dans la distance exotisante, me semble aussi permettre de situer l'écriture butorienne quelque part entre l'écriture de voyage et l'écriture francophone. Je vais maintenant vous montrer un autre espace qui, d'après moi, permet l'inclusion d'une culture américaine dans la langue française de Michel Butor, qui est les noms de marques. Ainsi, les noms de marques, surtout des voitures, sont légion, remplaçant l'utilisation du mot voiture lui-même, comme nous l'avons vu plus haut. La profusion d'objets incongrus, jusqu'à la poire pour douche vaginale, inonde le texte et répond à une autre série dominante, qui est celle des noms des animaux et des plantes, vus sur les planches du naturaliste Audubon. À mon sens, cette au moins double profusion d'un vocabulaire très spécialisé donne l'impression d'une culture américaine qui cherche à s'approprier un territoire qui ne lui appartient jamais vraiment, les toponymes indiens revenant régulièrement. L'ambition de tout nommer et de tout remplir se lit alors comme le revers de la crainte de l'autre, visible dans les mentions de l'apartheid et des réserves. Le fonctionnement en série du texte aide à saisir ces champs lexicaux dans leur homogénéité et leur étrangeté. Ils sont issus de la langue des autres et trouvent place dans le texte de Michel Butor. Cette hospitalité du texte, qui peut se lire comme une structure cherchant à laisser le plus de place possible aux langues des autres et à en révéler les fonctionnements et les hantises, peut aussi être pensée comme une sorte de laboratoire où l'auteur fait l'expérience de la culture et de la langue de l'autre pour la comprendre autant que possible de l'intérieur, tout en se sachant toujours à l'extérieur. Cette lecture francophone de Michel Butor m'a semblé fructueuse, permettant de situer mobile entre littérature de voyage et littérature francophone. Michel Butor cherche à aller au plus près de la culture de l'autre, ce qui l'amène d'ailleurs à préfigurer ici une définition anthropologique de la culture comme l'ensemble des éléments qu'une communauté rend signifiant. Cependant, ce geste, par lequel Michel Butor intègre autant qu'il le peut la langue et la pensée de l'autre, est un geste qui assume aussi ses limites. Il reste toujours dans l'écriture butorienne la conscience de son altérité et surtout la jouissance de cette altérité, vécue comme une différence susceptible d'agir comme un révélateur des impensés de l'autre rencontré. Cette conscience de l'altérité peut être pensée comme la manifestation de cet imaginaire hétérolingue que Maxime Delfiol identifie comme caractéristique essentielle des littératures francophones. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.